10 minutes chronique. Le roman de Los Angeles, troisième partie, Hollywood. Pour le vaste public des salles de cinéma, Hollywood, c'était trois syllabes magiques évoquant le monde merveilleux des illusions. Pour les fidèles, c'était bien plus qu'une usine à rêve, qui ne donnait sa chance qu'à un aspirant sur un million. C'était le monde du rêve, un ailleurs. C'était la cité des corps célestes, la galaxie glamour de Hollywood. Les adorateurs pratiquaient le culte, mais ils pouvaient aussi être capricieux, et si leur divinité se révélait avoir des pieds d'argile, ils pouvaient les destituer sans la moindre compassion. Derrière l'écran, une nouvelle star était toujours prête à faire son entrée. Extrait de Hollywood Babylon de Kenneth Anger. En 1886, aux États-Unis, la famille Wilcox achète un immense ranch dans la vallée de Cahuenga, région réputée pour son climat et ses récoltes, aux environs de Los Angeles. Harvey Wilcox y plante des orangers, puis il le répartit en blocs, qu'il divise en parcelles. Il fait dresser une carte de son terrain et met en location les parcelles. De quelques centaines de dollars, elles vaudront un jour des millions. Mrs. Wilcox avait donné un nom à leur propriété, Hollywood. En 1903, Hollywood obtient le statut de ville. À partir de 1910, les compagnies cinématographiques, quittant progressivement New York, installent leur studio à Hollywood. La machine à rêve est en marche. Pourtant, dès les années 60, elle perd de son éclat. Un extrait du livre signé de Raoul Walsh, « Un demi-siècle à Hollywood », en témoigne. Hollywood, la prestigieuse capitale du cinéma, avait été victime d'un étrange virement de bord. Les studios furent obligés de vendre des centaines de vieux films à la télévision. Finis les grands terrains sur lesquels se dressaient les immenses plateaux, des milliers de gens étaient au chômage. Terminés les galas, les magnifiques soirées, les prestigieuses premières où les stars descendaient de leur limousine à chauffeur devant le Chinese Théâtre de Grauman, emmitouflées dans de somptueuses fourrures et revêtues des dernières créations de la mode. La fermeture des studios de la MGM porta un coup fatal au cinéma. Le lion ne rugirait plus. Il ne restait plus qu'une ville fantôme. Hollywood était mort. La littérature américaine témoigne de l'atmosphère de nostalgie qui se dégage de ces lieux devenus comme des décors de carton-pâte pour les touristes ravis. À d'autres, ne reste que la nostalgie. Alan, celui qui m'avait dit que je devrais venir à Los Angeles pour écrire sur l'industrie du cinéma, travaillait pour le Los Angeles Times. Pour le moment, j'étais assis avec lui à une table basse dans un bar nostalgique, sur Wilshire Boulevard, à parler d'une pièce qu'il voulait monter sur les imitateurs de célébrités. Je ne savais pas pourquoi Alan avait choisi ce bar en particulier, mais je le qualifiais de nostalgique, car, qu'il ait ou non existé dans les années 50, il avait été conçu de manière à ce qu'une fois assis à la table basse, avec les murs de bambou et les masques polynésiens, vous ayez l'impression d'être quelque part au milieu du siècle dernier. C'était un souvenir culturel, ou plus exactement, un memento mori. Le passé auquel il faisait allusion, les playboys, l'esthétique beach party, qui était née après la Seconde Guerre mondiale, avait depuis longtemps disparu. Les photographies au mur, des photos publicitaires de stars de cinéma comme Dean Martin ou Tony Curtis, étaient des souvenirs culturels, des morceaux du passé, et comme le passé, on pouvait les modifier. Extrait de « Out of My Skin » de John Haskell, traduit de l'américain par Emily Noteris. Hollywood n'est que le souvenir d'une usine à rêve et a sans doute cessé aujourd'hui d'être le berceau des espoirs déçus pour tous ces jeunes gens qui se voyaient devenir James Dean ou Brad Pitt, pour ces adolescentes qui pensaient pouvoir devenir une star. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Il y avait encore de ces presque enfants portés par le rêve de leur mère. Depuis ma plus tendre enfance, j'avais appris à me terrer dans mon coin lorsque j'avais envie de quelque chose. Et pour l'instant, ma seule envie était que Lonnie Tishman fiche le camp. Je serrais les genoux si fortement que je m'aperçus par la suite que je m'étais fait un bleu. Mais il n'avait pas l'air décidé de s'en aller. C'était le genre baratineur. Alors, mademoiselle, racontez-moi un peu. Que comptiez-vous faire de beau ce soir? Oh, rien de précis, n'est-ce pas, Annie? Nous étions en train de nous dire combien le climat est merveilleux par ici. Nous ne sommes pas à L.A. depuis très longtemps. D'où êtes-vous donc? De Bay City, dans le Wisconsin. Lonnie se donna une claque sur la cuisse. Vous venez du Wisconsin? Fumant! Ma mère baissa les yeux et regarda ses ongles. Et qu'est-ce que vous fabriquez dans le coin? Dit-il. Je suis enseignante, dit ma mère. Je suis rattachée au département scolaire de la municipalité. Je donne des cours d'expression orale. Il y avait quelque chose de touchant dans le mélange de modestie et de fierté avec lequel elle avait annoncé ça. Et ma fille est actrice, ajouta-t-elle. Je piquai du nez sur ma glace, comme si le fait de manger avait brusquement nécessité toute mon attention. Je sentais leur regard posé sur moi, découpant le contour de ma silhouette sur la toile de fond que constituait le ciel. Lonnie siffla entre ses dents. « Actrice » murmura-t-il. Son visage prit une drôle d'expression et durant un bref instant, je le trouvais presque sympathique. « fit ma mère, comme si elle avait pu en dire davantage, mais qu'elle préférait se taire. Elle voulait évidemment se donner l'air modeste, mais la vérité, c'était qu'il n'y avait absolument rien d'autre à ajouter. Je n'étais pas une actrice, je voulais seulement le devenir. » Extrait de N'importe où sauf ici, de Mona Simpson, traduit de l'américain, par Richard Madden. Ma mère adorait dire aux gens que son fils était devenu le maître nageur des stars. Techniquement, il était le maître nageur des enfants de stars. Mais je n'allais pas préciser cela et gâcher son plaisir. Je passais mes samedis à errer sur des noms célèbres gravés dans le terrazzo rose d'Hollywood Boulevard, et le mot star avait une toute autre signification pour moi. Les stars, c'était une constellation d'étoiles sur lesquelles on pouvait marcher, parsemées de mégots de cigarettes et de restes de chewing-gum. Les stars étaient des tremplins qui menaient aux boutiques de nouveautés, où je dépensais mon argent de poche en farce et attrape et en chewing-gum fantasy, qui noircissait la langue et les dents du mâcheur. Les stars décoraient le trottoir sur lequel s'étalait depuis la Frolic Room une luxuriance chancelante faite d'hommes et de femmes chiffonnés et dégoûtés par le soleil. Mais si je faisais comme ma mère et considérais moi aussi que les stars étaient ces lumières qui palpitent dans le ciel nocturne, si je parvenais à me convaincre, ne serait-ce qu'une seconde, que mon frère avait appris à ces stars à nager dans le cosmos, alors son anecdote devenait absolument splendide, et je comprenais pourquoi elle en parlait aussi souvent. Extrait de The Bill from My Father de Bernard Cooper.
Cette ville, tout peut changer très vite.
Le 14 août, nous nous retrouvons pour le quatrième épisode du roman de Los Angeles, 10 minutes chroniques dans Viva Culture, sur Westrack Radio. À bientôt.